N-E-R. C'est un acronyme de... Ah, ni en emploi.
C'est ni.
D'accord. Ni en emploi, ni en retraite. OK.
Dans les faits, moi, mes amis qui se sont retrouvés au chômage entre 50 et 55 ans, on leur a expliqué que c'était bon, elles étaient vieilles, trop chères et trop vieilles. Donc, c'est fini.
Bonjour à toutes et à tous. Vu notre thème du jour, qui fait froid dans le dos à Cyril, notre rédacteur en chef entré avec fracas dans la cinquantaine, c'est conscient de la chance que j'ai d'être encore plus ou moins jeune que je vous accueille dans ce numéro de Zoom Zoom Zen consacré au NER. Quand on n'est plus assez jeune pour être un salarié désirable, mais encore un peu trop jeune pour la retraite. On est alors ni en emploi, ni en retraite. NER, un sujet qui, étant de nature anxieuse, m'a forcé à effectuer par la pensée un saut dans le temps. Nous sommes le 14 novembre 2035. Je viens d'avoir 53 ans. Je suis toujours sur France Inter, mais désormais au flash de nuit. Vis-le comme une promotion, m'a lancé Jordan Deluxe, nommé directeur d'Inter en 2029. Place aux jeunes, avait dit Rachida Dati, qui avait proposé son nom. Après la démission d'Adèle Von Rett, qui après l'élection de Jordan Bardella en 2027 et un 14e mouvement social à France Inter, avait décidé de changer de vie pour rejoindre un monastère bouddhiste de Lhasa, afin, je cite ces mots dans Philosophie Magazine, d'oublier tous ces cons. En faisais-je partie ? Bah, je ne le saurais jamais. Ce que je sais, c'est que c'est chiant, les flashs de nuit. J'ai beau savoir que c'est une promotion, le fait que mon salaire a été divisé par 6 me gêne quand même un peu. D'autant que ça me fait toujours drôle quand je passe le matin devant la grande affiche sur la maison de la radio et que je vois en 4 par 10 les visages triomphants de ceux qui étaient jadis mes chroniqueurs et ces mots en lettres rouges vives, la méga grande matinale, 6h midi, Manon Mariani, Quentin Lui, avec la Marianoche et la bûche, voyez ultra large. Quand je raconte ça, quand je raconte tout ça à Cyril en me penchant sur lui et en réajustant aussi les chrysanthèmes au Père Lachaise, je ne sais pas ce qu'il pense. Comme moi, là où il est, au paradis des viandards, il doit se dire décidément que la vie est passée trop vite. Zoom Zoom Zen, c'est parti.
France Inter. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Bonjour Laetitia Vito.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous sur Inter cet après-midi. Vous êtes auteure conférencière, spécialiste des mutations du monde du travail. Vous êtes d'ailleurs présidente de Cadre Noir, une entreprise spécialisée dans la recherche sur le futur du travail. Vous animez également un podcast Nouveau Départ et vous venez de sortir un livre que j'ai ici, L'Atout Âge, aux éditions Erol. Vous allez donc tout nous expliquer de cette période professionnelle compliquée quand on n'est ni en emploi ni en retraite, quand on est donc un NER. Juste le temps de vous présenter ceux qui sont encore très loin de la cinquantaine. Ils affichent une insolente jeunesse, doublé d'un désobligeant mépris pour les quadras qui tentent de rester jeunes par d'audacieux artifices vestimentaires, d'où la réaction de Manon ce matin quand elle m'a vu arborer ma nouvelle salopette. Manon Mariani, Quentin Lui, bonjour.
Bonjour.
C'est quoi vous, c'est la compagnie des déboucheurs ou quoi?
C'est notre ancien sponsor.
Alors cette blague a été faite 3 fois, mais oui.
Ah bon? Comme ça?
Mais quand vous n'étiez pas là, quand vous dormiez chez vous, quoi.
Ce qui compte, c'est la radio.
C'est vrai.
Ce qui compte, c'est l'antenne. Et d'être brillant l'antenne.
Mais en plus, je vous ai dit qu'elle vous allait très bien, votre salopette.
Évidemment, à vos côtés, je plaisante, Laetitia. Évidemment, non seulement elle ne serait jamais permis de critiquer ma salopette qui me va à ravir, en tout cas selon ma femme, mais surtout, elle sait parfaitement qu'elle n'est plus si jeune depuis le micro-trottoir de mercredi sur les expressions de la Gen Z, séquence douloureuse durant laquelle elle a quand même brandi une feuille sur laquelle était écrit « On est vieux ».
Ah ouais, une lucidité, ça m'a déprimé.
Une lucidité qui vous honore, Manon, et qu'on apprécie également dans votre pièce jointe.
Aujourd'hui, un contrat, il a été au cœur de la campagne de François Hollande en 2012, mis en pratique en 2013. Son but, reconnecter les générations dans le travail. Spoiler, ça a été un gros fail.
Au cas où les gens ne sauraient pas que professionnellement, passer la cinquantaine, ça risquait d'être compliqué pour eux, sans parler du périnée qui se relâche et de la prostate qui fait des siennes, Quentin est allé leur dire, plombant leur journée, mais alimentant son micro-trottoir.
Et il y en a, hein, des quinquas.
Il y en a des cacas. Il y en a de nombreux, c'est vrai, mais ça sera l'objet d'une autre émission. Sur le transit. Évidemment qu'on va la laisser, moi. Évidemment, Quentin, qu'on va la laisser. Il y en a beaucoup.
Je terminerai pas.
Des quinquas.
Bon, François, vous, mon vieux.
Ah, tant pis. Vers 16h30.
Et il y en a des quinquas qui flânent dans la rue tant ils n'ont rien à faire. Et ça marche. Je suis venu vous parler de cette période floue qui se situe pile entre l'attente de mourir et celle d'un ennui profond au travail. On s'est bien marré.
Évidemment. Vers 16h30, plus corsé que le questionnaire de Culture G des Miss France, nous jouerons au Zoom Zoom Test. À la découverte aujourd'hui de ces métiers qui ont disparu, et c'est dommage, ça offrirait des perspectives au NER. Cyril aurait par exemple été un sacré bématiste. Mais qu'est-ce qu'un bématiste ? Réponse dans le quiz. Juste avant 17h, nous aurons... C'est du sacré teasing. Nous aurons droit au bilan hebdomadaire de François Rollin, qui viendra idéalement remettre une couche après les audiences. Après 17h, restez avec nous, on passera en mode zoom-zoom back, direction 1995 aujourd'hui. Le président Chirac décidait de la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique, et à part Cyril, ils étaient peu à l'applaudir. Mais pour l'heure, zoom donc sur ces NER. Laetitia Vito, est-ce que les personnes qui sont dans cette zone grise, hein, ni en emploi, ni à la retraite, c'est un sujet qui est suffisamment pris en compte par les pouvoirs publics?
C'est très insuffisamment pris en compte parce que ça concerne une personne sur six entre 55 et 64 ans, donc c'est
énorme.
Absolument énorme. Mais c'est cette zone grise avec beaucoup de gens qui sortent des statistiques. Donc on a des gens qui sont au chômage, alors ceux-là sont comptabilisés bien sûr, mais il y a ceux qui sortent du chômage et qui rentrent dans ce qu'on appelle le halo autour du chômage, avec des situations où en fait simplement on sort des statistiques, on renonce finalement à être comptabilisé comme chômeur parce qu'on sait qu'on ne trouvera plus d'emploi par exemple. On a des personnes qui sont usées, qui ont été usées par leur travail, mais qui n'ont pas la reconnaissance de cette usure parce que c'est pas un accident du travail qui leur donne des droits. On a des gens qui sont autres, c'est-à-dire des gens qui ont renoncé, par exemple, parce qu'ils se sont occupés d'un proche en fin de vie pendant des années, et puis impossible de revenir dans le monde du professionnel parce que les trous dans le CV ne sont pas appréciés des recruteurs. Donc toutes ces situations sont très hétérogènes. Ce sont des personnes qui sont vulnérables. Une bonne partie d'entre eux, un tiers, vivent sous le seuil de pauvreté, et il faut mettre la lumière sur ce phénomène beaucoup plus.
C'est ce qu'on va faire cet après-midi ensemble. Oh oui, elle aura à fière allure sa pierre tombale. Cette statue de lui, taille réelle déjà, en marbre de Carrare, le représentant en train de terrasser Eddie de Préto avec un énorme marteau, qui n'est pas sans rappeler celui de Thor dans les Avengers. Et puis évidemment, cette épitaphe sublime empruntée à son groupe favori, With or Without Me. Cyril, en attendant de se retrouver voisin de concession au Père Lachaise, parce que j'ai acheté évidemment celle à côté de la vôtre.
Parfait, on pourra se donner la main ce matin,
oui, ce qu'il en restera. Racontez-nous les NER, d'où ça sort.
Imaginez, vous avez 60 ans ou autour de ça, vous avez travaillé toute votre vie, payé vos cotisations, élevé des enfants, vous avez même vécu les plans sociaux et les réunions interminables, et soudain, terminé, plus de boulot, vous êtes devenu trop vieux ou trop vieille pour le marché du travail et aussi trop jeune pour la retraite. Bienvenue dans une zone grise, on a commencé à le dire, de la vie professionnelle, celle des ni en emploi ni à la retraite. On va le voir, ce NER, c'est le dérivé d'une notion apparue en Angleterre dans les années 90. C'était un sigle, à l'origine NEET pour Not in Employment, Education or Training. Ça désignait les jeunes de 15 à 29 ans qui étaient sans emploi, ni études, ni formation. Et puis, à partir des années 2010, le sens évolue, encore d'ailleurs de l'autre côté de la Manche.
Oui, maintenant on ne parle plus de jeunes décrocheurs.
Non, il s'agit de seniors comme en suspension. Des femmes et des hommes de 55 à 64 ans sortis du salariat, le plus souvent après avoir été virés, mais qui n'ont pas le droit à leur retraite. Ils ne sont plus comptés parmi les actifs et pas encore parmi les retraités. Bref, ils sont devenus une population invisible dans les statistiques. Les sociologues en parlent comme d'un angle mort du modèle social français. La sociologue française, Dominique Méda, évoque une fracture de l'âge, quand la société célèbre la jeunesse éternelle, mais ne sait plus quoi faire de ses plus de 60 ans. Alors, d'où ça sort les ni en emploi, ni à la retraite? Et bien de là, et ce n'est que le début de notre histoire.
Merci Cyril. Laetitia Vito, il y a quand même un paradoxe à vouloir reculer l'âge de départ à la retraite, quand on se retrouve avec des personnes de plus de 55 ans qui sont déjà plus en activité.
Exactement, la question c'est encore faut-il pouvoir travailler, et ça beaucoup de gens ne le sont psychiquement ou physiquement plus capables de travailler, et avoir un emploi. Et dans les deux cas, là aussi, c'est un gros sujet, avec cette statistique moi, qui m'a fait froid dans le dos, que j'ai lu dans un rapport de Force Femmes qui dit que 47% des cabinets de recrutement disent avoir du mal à caser une candidate de plus de 45 ans. Donc comme quoi, ça commence même avant la cinquantaine. Ouais. Si vous êtes sans emploi à ce moment-là ou en reconversion, les choses commencent déjà à être compliquées. Donc, elles sont rares, les personnes de 45 ans, ni en emploi, ni en retraite, parce qu'en général, elles finissent par retrouver. Mais ça peut déjà commencer à devenir difficile à ce moment-là.
Est-ce qu'on sait si ce phénomène des NER est en augmentation ?
Alors ce phénomène est en augmentation, mais là aussi on manque de statistiques. Par exemple, mesurer l'impact de la réforme des retraites sur le nombre de personnes ni en emploi ni en retraite, ça avait été fait par le Conseil d'orientation des retraites dans les années 2010, hein, au moment de la précédente réforme. Ça n'a pas été fait là dernièrement. Et donc on manque de statistiques récentes pour en mesurer l'augmentation. Ce qui est probable, c'est qu'il y a une forte augmentation qui est liée à quelque chose de positif, qui est l'augmentation du taux d'activité des seniors. Mais qui dit augmentation du taux d'activité dit aussi augmentation de ceux qui tombent dans les trappes à inactivité.
Peut-être un mot des profils, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt dans le BTP, plutôt dans les bureaux.
Alors, sont majoritairement des femmes. 60% des personnes ni en emploi ni en retraite sont des femmes. Et quand on regarde les cas, les différents cas de figure, par exemple, l'usure professionnelle, elle est beaucoup mieux appréhendée dans le travail masculin que dans le travail féminin. Oui. Le compte de, professionnel de prévention, le C2P, qui permet de, en gros, d'avoir des points pour pouvoir partir à la retraite plus tôt, pour pouvoir avoir des formations financées, etc., il ne profite qu'à une très petite minorité de femmes. C'est seulement 23% des personnes qui bénéficient du C2P, qui sont des femmes. Donc, c'est dire à quel point on ne mesure pas la pénibilité du travail féminin. Donc, toutes ces personnes-là qui sont cassées par un travail répétitif qui va être dans le soin, qui va être des troubles musculo-squelettiques causés par des gestes répétitifs dans la grande distribution, pense aux caissières, par exemple. Ça n'a pas l'air, ça a pas l'air méchant comme ça quand on regarde le travail d'une caissière. Et en fait, à la longue, ces gestes répétitifs causent des troubles musculo-squelettiques qui sont plus longs et plus fréquents chez les femmes. Inter.
Zoom zoom zen. Trop vieux pour travailler, trop jeune pour la retraite, la spécialiste du monde du travail Laetitia Vito est toujours avec nous pour nous décrypter le phénomène des NER, ces personnes ni en emploi ni à la retraite. Laetitia, est-ce que statistiquement, ça veut dire qu'après 55 ans, si on perd son travail, il y a peu de chances d'en retrouver un par la suite ?
Ça commence à être compliqué. C'est pour ça que les personnes au chômage après 55 ans sont majoritairement au chômage de longue durée, c'est-à-dire pendant plus d'une année. Et plus c'est long, plus c'est difficile de revenir. Et plus les trous dans le CV sont importants, plus les recruteurs rechignent à accepter des candidatures. Donc souvent, elles sont éliminées. D'ailleurs, les outils d'intelligence artificielle qui font le screening des candidatures n'hésitent pas à éliminer les candidatures
légal,
à partir d'un certain âge.
De configurer le logiciel pour qu'il nous élimine.
Ça n'est pas légal, mais il faut prouver que ça a été fait. Et c'est pas
tout, ça les IA sont agistes, en fait.
Ouais, complètement. Enfin, on peut parler de IAgisme.
On a le mot. On en fera une émission.
C'est quand même paradoxal que les entreprises rechignent aujourd'hui à embaucher des seniors, sachant qu'il n'y a pas besoin de les former. Ils sont déjà opérationnels.
Absolument, ils sont déjà opérationnels et aussi, alors il y a souvent cet argument qui est de dire un senior est cher. Senior égale cher. Oh, alors là, c'est cet argument soi-disant pas agiste qui en fait est complètement faux puisque ne sont chers que ceux qui ont une carrière linéaire dont l'ancienneté est récompensée un salaire qui progresse. Mais pour les personnes qui sont ni en emploi ni en retraite, avant qu'elles le deviennent, en général, on a des personnes qui sont dans des emplois où les rémunérations progressent assez peu, soit qui ont eu des trous dans le CV, qui n'ont pas la prétention d'avoir un salaire plus élevé que quelqu'un qui a 10 ans de moins, donc qui ne demandent pas plus et donc ne sont pas plus chers et pourtant on ne veut pas d'eux et pourtant leur expérience pourrait être bénéfique.
Il y a un biais agiste de l'IA, vous venez de le mentionner, mais il y a aussi un biais agiste humain tout court dans le recrutement aujourd'hui.
Un biais agiste tout court, absolument, et qui pénalise encore plus fort les femmes avec ce double standard du vieillissement et qui fait que quand simplement votre aspect commence à ne plus correspondre au standard mis en avant de ce que doit être la beauté féminine, eh ben, vous prenez cher.
Il y a un aspect culturel aussi qui bloque peut-être les employeurs. Vous dites dans votre livre que les pratiques de recrutement et de gestion des carrières sont truffées de stéréotypes agistes. Lesquels ?
Alors absolument. Déjà, on a toujours un certain nombre d'attentes par rapport à l'âge que vous avez. Si vous avez, 20 ans, on s'attend à ce que vous soyez, vous ayez votre permis de conduire, votre baccalauréat, bien sûr, largement, mais que vous soyez, par exemple, dans la deuxième année de vos études, puis à 25, vous quittiez le domicile parental et que vous ayez déjà un emploi
installé.
Il faut être bien dans les clous. Et dès qu'on est bien dans les clous, tout marche. Ouais. C'est ce que j'appelle l'adéquationnisme, c'est-à-dire à un poste, on associe un profil type idéal qui a le bon âge, le bon nombre d'années d'expérience et le bon diplôme. Or, cet adéquationnisme, cette linéarité, elle ne colle plus à la réalité des travailleurs et travailleuses d'aujourd'hui parce que beaucoup ont eu des ruptures et que les choses ont changé très vite. Il y a des métiers qui n'existaient pas, donc ça ne marche plus.
Mais ça peut peut-être changer. J'ai envie d'être optimiste. On dit qu'aujourd'hui, le marché du travail évolue pas mal. Il y a plein de nouveaux métiers qui se créent et la Gen Z qui arrive aux affaires actuellement, c'est des jeunes qui aiment bien changer d'emploi, c'est souvent en fonction de leur goût, ils cherchent des métiers passion, etc. Bon, c'est peut-être un peu cliché, mais il y a un peu de vrai là-dedans quand même. Est-ce que donc peut-être ça peut faire changer tout ça, bousculer les employeurs ?
J'ai envie d'être optimiste aussi, et je pense que ça va changer. Ça va changer précisément parce que ce que vous dites, c'est que les plus jeunes ont déjà des carrières faites de rupture dès le début de leur carrière, et que donc ces attentes ne collent plus. Quand tout le monde est atypique, c'est que atypique, c'est devenu le nouveau
typique. C'est la nouvelle norme.
Ouais. Exactement. Donc ça, c'est en train de changer. Aussi, une prise de conscience sur le fait que ça ne va pas tenir avec une population active collective qui vieillit. Si on discrimine des personnes à partir de 55 ans, on va manquer de bras très vite. Et on va payer les frais très vite.
Vous dites qu'il faudrait clarifier la terminologie junior senior et envisager un index démographique pour mesurer l'équité intergénérationnelle en entreprise. Ça veut dire quoi ? C'est quoi cet index ?
Alors d'abord sur junior senior, c'est vrai que c'est très binaire. On imagine dans la voiture de police dans un film américain le vieux flic qui a de l'expérience et puis le jeune fougueux qui prend des risques inutiles et puis les deux qui se compensent. Et c'est vrai que c'est un archétype fort qui montre bien les vertus de l'intergénérationnel, même si c'est cliché hein, en l'occurrence. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas que deux générations. On a 5 générations progressivement au travail et ça commence à faire beaucoup. Et cette diversité d'âge fait que si on est senior à 45 ans alors qu'il vous reste 22 ans ou 23 ans de carrière, il y a un mot qui désigne une catégorie qui va être la moitié de la population active. Donc ça n'a pas de sens. En plus, ce mot, il est très ambigu parce qu'on parle de senior parfois par rapport à une expérience à 45 ans, mais dans les politiques de l'emploi, on parle de senior plutôt après 55 ans. Et puis on parle aussi de senior pour les gens qui sont dans les EHPAD. Donc le mot est trop vague, trop flou. Donc il faut être plus précis, parler probablement de cohorte. Ça fait un peu démographique, mais parler d'âge, hein, les cadres, les quinquas, pourquoi pas. Ça, au moins, ça a le mérite.
C'est plus clair.
D'appeler un chat, d'appeler un quinca un quinca, n'est-ce pas ?
Vous me regardez, moi ? Attention, moi je suis encore dans le quadra, hein. Attention, les quinca ils sont à trouver en régie. Face à vous Laetitia, on ne s'inquiète pas trop pour lui. Le jour où la radio ne voudra plus de ses services, il lui restera toujours l'univers interlope du grand banditisme normand. Trafic de cartes vitales, paris truqués, arnaque à la TVA. Je rappelle en outre que Quentin est l'inventeur du SMS vous annonçant que le colis est trop grand pour votre boîte aux lettres. Bref, il saura rebondir.
Mon père, il a répondu à ce...
Oh non.
Si, mais il savait que c'était une arnaque.
Ah bon ?
Il a répondu quoi ? Et ta mère, elle est trop grande pour la boîte aux lettres. Oui, c'est vrai.
On voit que l'humour est héréditaire chez lui. En attendant, Quentin, vous êtes allé à la rencontre des passants pour les alerter sur le fait que bientôt ça sera la dèche pour eux.
C'est l'heure de la pause dèche. Ce coursier de plus de 50 ans avale un sandwich sous cellophane avec un casque de moto sur la tête. Je me dis qu'il y a parfois pire comme pause dèche que la cantine de Radio France et je ne savais pas que ça existait.
Non.
Je m'avance pour lui parler. Je lui dis que je fais un truc dans la rue avec les gens. Réponse, tu vas rien faire avec moi. Il enclenche la première et disparaît dans la capitale. C'est ici, l'âme en peine, après ce vent intersidéral, que je tombe sur ses 3 copines.
Bonjour.
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 Quels sont vos prénoms ?
Anne.
Marie-Laure.
Florence. N-E-R. C'est un acronyme de... Ah ! Ni en emploi.
C'est NIT en principe.
Ah,
c'est ni en emploi ni en retraite. D'accord.
Ouais. Ok. Vous visez les vieux, c'est pour ça que vous êtes venu nous voir.
Ouais.
Alors c'est pas vrai.
Elle a 45.
Bon, peut-être un peu. Mais ça vaut le coup. Elle voit très bien de quoi nous parlons aujourd'hui dans Zoom Zoom Zen.
Dans les faits, mes amis qui se sont retrouvés au chômage entre 50 et 55 ans, on leur a expliqué que c'était bon, elles étaient vieilles, trop chères et trop vieilles. Donc c'est fini.
Des copains qui avaient plus de job à 55 ans, pour rebosser, ils ont dû monter leur boîte. Ou faire du coaching conseil pour les mecs, voilà, de la déco pour les meufs ou de l'immobilier.
Et du conseil, du coaching, et voilà.
Mais alors on parle de quel statut, de quelle situation ?
Des gens licenciés qui n'ont pas retrouvé et qui montent une structure de conseil et trouvent 3 missions à droite à gauche et voilà.
Où tu vas faire des missions ponctuelles,
Des jobs de transition, d'être manager de transition, je trouve que ça s'est énormément développé.
Ouais.
Pour employer ponctuellement des anciens DAF, des directeurs de communication ou marketing,
mais c'est
etc.
ponctuel. Est-ce qu'on vit
très
c'est de la mission,
hein.
Financièrement, c'est pas une sécurité.
C'est pas une sécurité. Je demande à l'une d'elles, dans cette situation, mais avec un mari au poste confortable, donc ça va, comment elle occupe son temps où l'on n'est ni une salariée, ni une retraitée ?
On fait pas mal d'associatifs.
Ah ouais.
Donc on n'a pas de... Moi, j'ai pas de notion d'ennui. Je me suis mis dans pas mal d'assos, que ce soit des assos pour aider ou des assos intellectuels.
Je traverse la route maintenant et je vois ce jeune homme, bouteille de soda à la main, un sandwich triangle, il bosse juste à côté.
Bonjour monsieur.
Quel est votre prénom à vous ?
C'est Khaled.
Vous avez quel âge ?
J'ai 29.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie vous ?
Je travaille, je suis dans la rénovation et le lavage automobile.
Je lui demande s'il préfère bosser avec un jeune ou avec un vieux.
Bien sûr que je préfère travailler avec un jeune, c'est... Bon, après, en fait, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Pour les jeunes, donc, il y a un manque d'expérience, mais ils sont plus dynamiques, plus... donc la productivité, elle va être présente. Après, les plus âgés, il y a la productivité, donc, elle baisse un petit peu, mais en termes d'expérience et de perfectionnisme, ça va être plus convaincant, on va dire ça.
Finalement, les seniors sont perfectionnistes. Ma dernière rencontre est pressée. Smartphone à l'oreille, je le sors d'un message vocal.
Bonjour, bonjour.
Quel est votre prénom à vous ?
Alexis.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ?
Je suis en communication et conférencier professionnel.
Et là, vous avez un train ?
Et là, j'ai un train à prendre, exactement. Je suis bien, mais il faut pas que je tarde.
Ouais, moyen, moyen. Le temps de découvrir quand même le thème du jour de Zoom Zoom Zen, cette zone floue entre la fin de carrière et la retraite.
Ah oui, je suis complètement d'accord.
C'est un vrai truc de notre époque.
Un vrai sujet énorme, quoi. Le sens au travail.
Le sens au travail, c'est son combat un peu à lui. Pour la plupart des recruteurs, c'est effectivement l'idée. Mais pour ce conférencier professionnel, tout n'est pas perdu. Il faut revoir les priorités et le modèle.
Enfin, en tout cas, moi, dans ce que j'en entends, hein, donc des gens qui ont plus de 50 balais et qui cherchent du boulot, dans mes réseaux, dans mes proches, bah, ils sont plus bankable, quoi. Bah, donc, ça veut dire qu'à un moment, notre société doit quand même se poser la question. Ça veut dire quoi si on considère qu'à 50, plus de 50 ans, à peine 50 ans passés, je suis déjà plus utile dans la boîte. Ça veut dire quoi? C'est que j'ai pas assez d'énergie? J'ai trop de compétences dont je coûte trop cher?
Et c'est l'idée. C'est ce qu'on entend. Et pour lui, c'est le sens qu'on donne au travail. On revient sur cette idée-là.
Moi, je pense quand même qu'une partie des 50 plus a tout à fait cette appétence d'aller montrer son expérience sur un certain nombre de sujets et qui sont aussi assez ouverts pour accueillir ce que le jeune va apporter aussi. Et donc, ça veut dire que l'entreprise doit prendre le temps aussi de peut-être d'arrêter de chercher cette productivité à tout va et de comment je mets les équipes autour de la table pour co-construire cette entreprise de demain, qui est déjà aujourd'hui d'ailleurs, puisqu'on demande déjà aux gens de bosser plus tard. Évidemment qu'on en aura toujours pour dire « moi ça m'intéresse pas d'aider les jeunes », et des jeunes pour dire « les vieux c'est des vieux cons, j'en veux pas, même 50 ans passés ». Mais dans le lot, j'imagine qu'on arrivera à trouver de la synergie. Et c'est le sens, je pense qu'on a arrêté de penser au sens parce qu'on pense juste à la productivité et à du fric.
Entre ceux qui ont déjà donné et ceux qui n'ont pas encore trouvé leur place, il y a toute une génération suspendue, ni en emploi, ni à la retraite. Mais il y a peut-être un équilibre à trouver, trouver l'équilibre entre ceux qui savent et ceux qui veulent, entre l'expérience et l'élan, entre le passé et le possible. C'est peut-être ça aujourd'hui, le NER, le nerf de la guerre.
Merci Rimbaud. Laetitia Vito, entre conférencier professionnel, qu'est-ce que vous pensez du discours d'Alexis ? Et il a raison de parler de sens qu'on donne au travail, qui plus est quand on travaille de plus en plus longtemps.
Il pointe une soi-disant guerre des générations entre des jeunes qui verraient les vieux comme des vieux cons et des vieux qui verraient les jeunes comme des jeunes cons, qui n'existe pas dans le monde du travail en réalité. En réalité, on s'aime bien.
On s'aime bien
plus qu'on ne le pense. Et il faut arrêter de cultiver cette soi-disant guerre des générations. On a besoin de se mélanger entre tous les âges. C'est ça qui crée de la productivité, parce qu'il a été beaucoup question de productivité dans ce qu'on a entendu. Mais c'est aussi ça qui nous rassure sur notre place dans le groupe. Être avec quelqu'un de plus vieux au travail, ça nous dit qu'on a la possibilité de vieillir dans ce travail-là et qu'on a un avenir. Et inversement, quand on est plus vieux et qu'on voit quelqu'un de plus jeune, ça nous dit que le projet sur lequel on travaille ou l'entreprise dans laquelle on travaille a un avenir puisqu'elle est portée par des personnes plus jeunes que nous. En gros, ça nous rassure très profondément sur notre avenir et ça crée un facteur de sécurité psychologique.
On a entendu Khaled, ce jeune homme qui dit qu'il préfère travailler avec des jeunes plutôt qu'avec des vieux, mais bon, c'est normal, c'est presque humain. Est-ce qu'il faudrait penser à la disposition des bureaux, je pense pour les emplois en bureau plutôt, pas par tranche d'âge, mais presque. C'est-à-dire que le voisin soit à peu près, on va dire à peu près notre âge, celui d'après un petit peu plus vieux, et ainsi de suite, pour pouvoir travailler ensemble sans s'ennuyer, sans ne pas se parler.
Alors, ce qui est important, c'est à l'échelle des équipes, de créer des équipes avec une certaine diversité. Ce qu'on dit sur la diversité, que ce soit de genre, que ce soit social, etc., est vrai sur la diversité d'âge. Il faut la provoquer un petit peu, parce que sinon, on a toujours tendance à chercher les clones de nous-mêmes, c'est-à-dire des gens qui vont avoir les mêmes références, t'es de quelle année, voilà. Donc, pour casser ça et pour créer des échanges, c'est pas mal d'avoir des équipes dans lesquelles il y a une forme de diversité d'âge. Parfois, il faut la provoquer un petit peu.
Les trois copines dans le micro-trottoir parlaient de leurs amis qui se sont fait licencier. Le mot quand même revient beaucoup, qui ont plus de 50 ans. Les licenciements, c'est la première, on va dire, cause de ces gens qui deviennent NER après ?
Alors il y en a, il y a des gens aussi qui partent d'eux-mêmes, notamment des femmes dans les agences de communication qui passaient la quarantaine déjà, se disent « oulala, je n'ai plus ma place ici », où on a une pyramide avec que des jeunes femmes en bas et que des vieux hommes en haut. Et où là, évidemment, c'est problématique. Mais le licenciement n'est pas le facteur le plus fréquent, même si c'est trop fréquent. Le plus fréquent, c'est des personnes qui vont basculer à temps partiel ou devoir changer d'emploi parce que, par exemple, elles accompagnent un proche dans une situation de maladie, fin de vie, etc. Et ensuite, le retour ne se fait pas ou se fait très mal.
Et donc là, c'est les femmes encore en première ligne. Parce que
c'est les femmes en première ligne. Il y a quelques hommes dans l'eau aussi. Mais voilà, sur les aidants, 60% des aidants sont des femmes. Et sur les, ceux qui renoncent à une partie de leur activité professionnelle, c'est une, de manière écrasante, c'est des femmes. C'est trois quarts.
Qui dit licenciement dit période de chômage. Est-ce qu'il faut se méfier de cette période-là, justement, de ne pas trouver du confort dans cette situation-là, pour ne pas peiner à retrouver du travail derrière?
Alors c'est vrai que plus c'est long, plus c'est dur. Donc le mieux est d'essayer de ne pas tomber dans cette... Mais parfois, on n'a pas le choix. Donc c'est difficile de donner des conseils à quelqu'un, de surtout ne rester pas au chômage trop longtemps.
Bougez-vous.
Ça leur met la responsabilité sur leurs épaules. Mais en effet, s'il y a moyen d'avoir même une activité partielle ou la création d'entreprises, beaucoup de quinquagénaires créent des entreprises. Oui. Maintenant, voilà, le groupe démographique qui probablement a le plus connu d'augmentation de la création des entreprises. Et parfois, ça ne génère pas assez de revenus, mais au moins, ça vous donne un statut social. Mmh. Ouais. Vous avez une activité... Je suis CEO.
Je suis CEO même. Je suis PDG de ma...
Zoom Zoom Zen, Mathieu Noël sur France Inter.
Savoir se réinventer, voilà la clé d'une carrière professionnelle réussie. D'autant qu'aujourd'hui, avec l'augmentation de l'espérance de vie, les carrières sont parfois très longues. Prenez celle de Cyril Lacarrière, par exemple. Avant d'être notre rédacteur en chef, il a été tour à tour agent du portique de sécurité au FBI, Mr. Golden Dance Floor à l'Amnésia, désanusseur de porc à la salaison de Ponto Combo, pionnier de la VHS et bien sûr, Égéry Blanc du Nil. Le seul qui lui arrive à la cheville autour de cette table, vous me direz que morphologiquement il arrive à la cheville de tout le monde, c'est Quentin. Un être prêt à tout pour faire de la moula. Alors avec la révolution de l'IA, on ne peut pas savoir quels seront les métiers de demain. Mais en revanche, on peut savoir quels étaient les métiers d'hier. Jouons au Zoom Zoom Test. À la découverte donc de ces professions qui n'existent plus, et pour certaines d'entre elles, c'est dommage. Direction d'abord Manon, cette époque lointaine où les femmes ne chantaient pas les louanges du wokisme à l'antenne de la première radio de France, mais étaient enfermées dans le gynécée, la Grèce antique. Ah la Grèce, berceau de la civilisation et mère d'inventions aussi importantes que le farniente, le tzatziki et les statues des Phèbes avec de tout petits.
Oh, les clichés.
C'est là, je connais bien ce pays. C'est là aussi qu'on a construit des temples magnifiques dont les colonnades ont inspiré Cyril Lacarrière pour sa résidence secondaire actuellement en travaux. Mais une question vous taraude forcément. Comment les Grecs ont-ils pu ériger de si prodigieux édifices sans mètre ni laser pour prendre les mesures? La réponse est simple, à l'époque, ils avaient des spécialistes dont le métier était de mesurer les distances avec leurs pas. On les appelait les podomètres, les bématistes ou les arpenteurs?
B.
Les podomètres,
ça va pas
c'est
être
rigolo.
A. Bah non.
C. Ils arpentent un peu.
Les arpenteurs,
ouais, bien sûr. Ouais.
C'est terrible, parce que le métier d'arpenteur a vraiment existé. En revanche, plus tard. Mais à l'époque, dans la Grèce antique, c'était la réponse B, les bématistes. Vous connaissez bien sûr l'expression précis comme un bématiste.
Bien sûr.
Oui, bien sûr.
Moi non plus. Un métier inadapté pour Quentin, ou alors l'acropole aurait eu la taille d'une maison de poupée. Mais rassurez-vous, mon jeune ami, l'histoire fourmille.
Attendez, mon jeune ami.
Je peux marcher longtemps. Peut-être pas à des grands pas, mais je peux marcher.
C'est vrai. Comme le petit Jousset.
Voilà, exactement.
Rassurez-vous, mon jeune ami, l'histoire fourmille de métier à votre portée, ou devrais-je dire à votre toise. D'après vous, quel métier fait pour vous, Quentin, a vraiment existé parmi les trois propositions suivantes? Placeur de quilles au bowling, lorsque les machines n'existaient pas. Étalon traverse, pour couper les traverses de chemin de fer à la bonne longueur, soit 1m50. Ou souffleur de carillon, pour nettoyer les mécanismes des clochers, endroit exigu par excellence.
Les trois.
A et C.
Les trois.
Alors, vous proposez beaucoup de réponses, il n'y en a qu'une de bonne.
C alors.
La réponse A, bravo Quentin.
On peut réécouter, il a dit A, bravo.
Bravo Quentin.
C'est des arnaqueurs, je suis choqué.
Vous auriez fait un fabuleux requilleur. Étonnante industrie des loisirs, bien avant l'automatisation des bowling, existait le métier de placeur de quilles ou requilleur pour éviter aux joueurs de faire le taf
eux-mêmes.
Il a dû se prendre des boules dans la tête.
Effectivement, une information qui à coup sûr fera de vous l'arrostat de votre prochain dîner. Nous sommes peut-être en train de titiller les sommets du gai savoir ou de la gênance. Only God can judge me. Sans transition, partons en Allemagne, en 1825, où le médecin Franz Gall, et vous comprenez maintenant pourquoi ce son, encore une idée, comment dire pour être poli, inattendue de mon co-auteur, Franz Gall donc, met au point une théorie selon laquelle la forme de la tête détermine le caractère, en observant attentivement les irrégularités de votre crâne. Une théorie complètement bidon, mais qui va faire bouillir la marmite de ce bon vieux Franz et de ses disciples, qui vont devenir des spécialistes de cette pseudo-science très en vogue durant les années 30 et exercer le contestable métier de quoi? De phrénologue? De crânoscopiste? Ou de caractériologiste?
C'est...
pourrais dire la première réponse.
Oh là là, non mais...
Phrénologue.
Ah, c'est B alors.
Crânoscopiste.
Ça va, c'est pas les 12 coups de midi.
Ou caractériologiste.
Hein, question court.
B. B, vous, Manon ?
C.
Ah, oui, c'est d'autant plus terrible.
C'est navrant. C'est navrant. Il aurait pu nous étudier,
déjà,
en revanche.
On a déjà parlé de la phrénologie dans cette émission.
Ah oui,
c'est ça, l'étude des crânes. Et qui... Oui, effectivement.
Quand ça ?
Eh ben, moult fois, j'ai envie de vous dire, Quentin. Oui, oui, oui. Réponse A, la phrénologie, à ne pas confondre avec la néphrologie, ou alors vous serez surpris par l'auscultation.
Oh.
Ah, tiens, Cyril vient de finir son petit check-up. Mais attention, évoquons maintenant un métier plus ingrat encore que néphrologue.
Il est mort de rire en régie.
Métier détesté car il consistait à réveiller les gens. La mission de réveilleur, ou knocker-up, puisque c'est en Angleterre qu'est née cette profession, c'était donc de sortir du lit tous les ouvriers qui, durant la révolution industrielle, n'avaient pas assez d'argent pour s'offrir un réveil matin. Rappelons d'ailleurs qu'en 2025, encore, le réveil matin est un luxe. Moi-même, qui n'ai que des montres suisses mécaniques, sans aucun dispositif technologique intégré, je n'ai pas de réveil matin. Totale solidarité avec les ouvriers anglais du 19e, hashtag we are the same. Bref.
Il y a des coques, non ? Je sais pas.
Vous avez un iPhone
des
aussi.
Des coques ? Mais il n'y avait pas de coques, ils étaient dans la ville. Il y avait plus
ah,
de
coques. Des coques, bah oui, c'est vrai.
Manon Quentin, vous
c'est
le faites ça c'était plutôt un goéland. Parmi les trois suivantes, laquelle ou lesquelles de ces méthodes étaient utilisées pour tirer le prolétaire de la paillasse ? Un bâton en bambou pour frapper aux fenêtres, efficace mais violent ? Des marteaux en mousse, ludiques mais chelous ? Ou des sarbacanes qui envoyaient des pois chiches ? What the fuck ? Mais
ah,
why not ?
Ah, ah, ah. Non mais attends.
C'est les trois s'ils se réveillaient pas.
Quentin, c'est votre jour. Les trois.
Mais non.
Si vous trouvez que le réveil de l'iPhone est violent... Essayez de vous prendre des pois chiches en pleine gueule. Knocker Up, un métier qui a perduré jusque dans les 70. La légende dit que c'est Cyril qui séjournait alors chez sa correspondante Grace Big Boobs et qui, en ayant marre de se prendre des pois chiches sur la tête chaque matin, avait fini par trucider le Knocker Up local, mettant fin à une tradition devenue trop dangereuse. Victoire de Quentin, très très large victoire.
Ouais,
de
Quentin. Ah, large.
Large.
C'est 2-1, oui, effectivement.
Oui, voilà.
On a connu plus large. On a connu plus large.
Non, c'est bien.
On va se calmer.
Mais dès qu'il gagne, c'est tellement étonnant.
On a connu plus voilà. large.
On va la savourer. Merci à tous.
Savourons en ce moment.
Oh, là,
la
c'est
spécialiste.
Pas possible, on les enchaîne.
La spécialiste de l'emploi de demain, Laetitia Vito, est avec nous pour zoomer sur les NER, ces personnes ni en emploi, ni à la retraite. Laetitia, que font ces personnes dans cette zone grise ? Alors, elles s'inscrivent à France Travail, vers quoi on tente de les orienter ?
Alors, il y a celles qui sortent complètement des statistiques et qui dépendent uniquement de la solidarité familiale, qui ne demandent même pas des minima sociaux, en fait, qui sont... à la merci de couples qui potentiellement sont violents. D'ailleurs, on rappelle que le divorce chez les quinquagénaires a explosé au cours des 40 dernières années et que celles ou ceux qui ne peuvent pas partir à cause d'une dépendance financière, c'est évidemment dramatique. Donc, celles-là, en fait, on ne sait pas ce qu'elles font. Voilà. C'est pour ça qu'il y a autres hein, dans la liste des cas de figure dans les NER. Il y a beaucoup de gens, on ne sait pas trop ce qu'ils deviennent. Ils sortent des statistiques, puisqu'une fois qu'on n'est plus inscrit au chômage, si on ne reçoit pas le RSA, par exemple, on n'est pas dans les statistiques.
Mais comment ils tiennent économiquement parlant ?
Ils sont à la merci de, enfin, dépendants de leur famille en fait. Hein. C'est ils s'occupent du foyer.
Voilà,
et puis,
un mari qui a une bonne condition.
Un mari
etc.
qui a une bonne condition, une
un
condition
héritage,
suffisante, un
ça,
héritage,
quoi.
De la débrouille, des enfants qui aident aussi ouais. parfois. Enfin, ça peut être toutes sortes de solidarité familiale.
On a dit que les femmes étaient très touchées par ce phénomène. Néanmoins, ça semble un peu contre-intuitif, mais vous dites que ce sont les femmes qui retrouvent plus facilement un emploi que les hommes.
Alors ça, c'est un peu paradoxal, c'est que le chômage des seniors, il est de 5,7% chez les femmes et de 6,7% chez les hommes.
Oui.
Alors on pourrait se dire, oh là là, pauvres hommes. C'est vrai, c'est terrible. Et ils sont frappés par un chômage de longue durée qui est absolument terrible.
Mmh.
Sauf que la raison pour laquelle il y a cette différence-là, c'est parce que les femmes acceptent des emplois très précaires, très peu rémunérés, et des temps partiels, y compris des temps partiels vraiment de quelques heures, ce qui les fait sortir des statistiques du chômage, là où les hommes n'acceptent pas ce type de poste.
Il y a un fossé entre la nouvelle génération qui arrive sur le travail et l'ancienne, notamment au niveau de l'informatique. Là, on a l'IA qui va arriver comme nouvel outil. Est-ce que ça ne va pas encore creuser un fossé entre les futures générations qui vont se rencontrer ?
Excellente question, mais le fossé n'est pas forcément là où on croit, là où on le pense. C'est-à-dire qu'on imagine, comme avec le numérique, que ce sont les jeunes qui sont absolument fortiches pour prompter sur ChatGPT. Mmh. Mais en réalité, pour prompter sur ChatGPT et être capable de juger de la pertinence de la réponse ou de prompter de bonne manière, bah, il faut avoir appris à écrire ou il faut connaître un sujet. Donc en fait, les seniors ont très largement l'avantage pour utiliser des IA génératives en particulier, parce qu'ils savent juger la réponse et que leur expérience et leur expertise les rend plus à même d'être augmentés par les IA génératives. Donc l'inconvénient, enfin le désavantage est plutôt du côté des jeunes qu'il va falloir, qui doivent se former sans IA pour pouvoir bien utiliser l'IA. Ça semble paradoxal, mais c'est ça.
Je disais que les hommes se reconvertissent moins facilement, mais ils ont aussi de meilleurs droits au chômage.
Oui, puisqu'ils ont eu des carrières en moyenne un peu plus linéaires et en moyenne un peu plus rémunérées, donc ils ont davantage de protection. Et puis quand ils ont des accidents du travail, qui sont en baisse chez les hommes et en augmentation chez les femmes, ils sont plutôt un peu mieux protégés, en
vous
général.
Dites, vous dites que ce problème des NER, qui concerne donc une personne sur six dans cette tranche d'âge-là, c'est énorme, il est pas pris en main par les politiques. Est-ce qu'à l'étranger, on a des exemples de pays où on se préoccupe de ces gens-là et où on les réinsère facilement, enfin, mieux?
Alors, il y a des pays où il y a un peu moins d'agisme et où le temps partiel est très, très massif. Hein. Par exemple, je pense à nos voisins allemands, chez lesquels, en fait, les écarts hommes-femmes sont encore plus massifs qu'en France. Et en Allemagne, beaucoup des seniors, et en particulier les femmes, travaillent quasiment totalement à temps partiel. Donc, ce sont des très petits revenus, mais ils sont maintenus dans l'emploi et ils subissent un peu moins d'agisme dans le recrutement. Théoriquement, les trous dans le CV, on leur en veut un peu moins parce qu'il y a une telle attente sur le fait d'être auprès de son enfant quand on est parent qu'on ne va pas en plus vous pénaliser pour ça.
Vous écoutez France Inter et si vous avez entre 55 et 63 ans, vous feriez mieux d'être sur LinkedIn à remanier votre CV.
Violence, Mathieu.
Je plaisante, d'autant que beaucoup de nos auditeurs sont dans cette tranche d'âge. Oui. On les embrasse d'autant plus fort. Bisous, bisous. Vous allez découvrir à présent, c'est un cadeau pour vous, la pièce jointe de Manon Marielli.
Un contrat.
500 000 contrats de génération verront le jour au cours des 5 prochaines années.
La voix de Michel Sapin, ancien ministre du Travail, qui parle en 2012 de l'une des grandes promesses du candidat François Hollande, le contrat de génération. Un engagement de campagne présenté comme une réponse au chômage massif des jeunes et à l'exclusion des seniors du marché du travail. Alors l'idée reposait sur un principe de solidarité intergénérationnelle au sein des petites et moyennes entreprises entre 50 et 300 employés. L'État leur proposait une aide financière annuelle de 4 000 euros pendant 3 ans, à condition qu'elles embauchent un jeune de moins de 26 ans en CDI tout en gardant un salarié de plus de 57 ans ou plus. Une forme de tutorat entre les deux salariés était aussi mise en place. L'ancien qui enseigne aux jeunes son savoir, une transmission intergénérationnelle. Le décret d'application est publié en mars 2013 et comme on l'a entendu, l'objectif du gouvernement Hérault est très élevé. Il parle donc de 500 000 contrats sur 5 ans. Problème, très rapidement, les chiffres ne suivent pas du tout. Selon les chiffres du ministère du Travail, 2 ans plus tard, seulement 51 000 contrats ont été signés, bien loin donc des prévisions annoncées. Et puis, le dispositif censé favoriser à la fois l'embauche des jeunes et le maintien des seniors dans l'emploi n'a pas eu un effet mesurable sur le chômage des jeunes, qui a même légèrement augmenté en 2015. Malgré plusieurs tentatives de relance, notamment une hausse de l'aide à 8 000 euros par an, les résultats sont restés faibles. En 2017, à la fin du mandat Hollande, à peine 67 000 contrats ont été conclus sur les 500 000 promis. Résultat, le gouvernement d'Édouard Philippe y a mis fin dans le cadre de la réforme du Code de travail. La Cour des comptes a parlé après coup d'un dispositif très coûteux, complexe et inefficace. La complexité administrative a d'ailleurs été assez rédhibitoire pour les PME et les sommes proposées pas assez conséquente. Plus de 10 ans plus tard, force est de constater que l'écart entre les générations est toujours aussi présent. Selon France Stratégie, les jeunes actifs estiment que leurs compétences sont plus adaptées que celles de leurs aînés. Et du côté des seniors, près d'un sur deux se dit discriminé à cause de son âge. Le contrat de génération n'aura donc pas créé d'emploi, mais il a mis en lumière un marché du travail qui oppose systématiquement l'expérience à la jeunesse.
Merci beaucoup Manon. Laetitia Vito, ce contrat, on peut le dire, génération a été un bon gros fail. Est-ce que c'est dans la nature, la manière dont il a été pensé? Parce que je vois, vous disiez, c'est 4 000 euros d'aide par an. Si vous payez quelqu'un 40 000 euros par an, déjà ça vous coûte en tant qu'employeur 80 000, on va dire, grosso modo. Donc 4 000 euros, ça n'a pas changé grand-chose. Oui, oui. Est-ce qu'il aurait fallu simplement donner plus d'aide, ça aurait pu marcher, ou c'est, le système en lui-même était mal fichu?
Probablement que le système en lui-même est mal fichu parce qu'il révèle à la fois que finalement l'agisme frappe autant les jeunes que les seniors. Oui. Le chômage des jeunes est bien plus massif encore que le chômage des seniors, et ça, il ne faut quand même pas oublier, il faut absolument le rappeler. Et que finalement, ce qui pose problème, c'est le fait de rentrer dans cette carrière linéaire avec toutes les protections de l'insider qui a le CDI et puis toutes les protections qui vont avec. Et donc, les jeunes étant très fortement discriminés, donc ils sont précaires plus longtemps, ils galèrent de petits boulots, de pigistes, ouais. Selon les études qu'ils ont fait, mais de la précarité, pour finalement rentrer, mais quand ils sont plus si jeunes que ça. Et puis, de l'autre côté, on a des seniors qui restent en poste, hein, quand on n'a pas quitté, quand on n'a pas perdu son emploi, on reste en poste et on n'a pas particulièrement besoin de ce type de dispositif. Ce qu'il faudrait, c'est l'embauche. Embaucher les jeunes en CDI et embaucher des seniors qui ne sont pas déjà en poste. C'est là que le bât blesse.
Embaucher, oui.
Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël sur France Inter.
C'est moche, le temps qui passe. Hier encore, Pierre Courade était un fringant jeune homme qui croquait la vie avec gourmandise, ses petits biceps s'agitant convulsivement dans des t-shirts trop serrés. Aujourd'hui, il ressemble à Alain Souchon et ce matin, il est arrivé en retard, balbutiant ces mots terribles. Désolé, j'ai eu une fuite. Pierre, même si c'est dur de vieillir, oui c'est vrai, rassurez-vous en vous disant qu'au moins vous avez un métier.
Notre style de fuite.
Alors certes, c'est un métier, c'est un temps très partiel, une minute par jour, mais quand même, c'est déjà pas mal.
Ben oui, aujourd'hui les NER, les personnes ni en emploi ni encore à la retraite, contrairement à REM qui sont à la retraite depuis longtemps. Les NER sont aujourd'hui dans une zone grise.
Nul.
Au chômage.
Non, excellent, excellent.
Merci Mathieu. Au chômage, donc les NER ou en fin de droit, ils n'arrivent pas à retrouver un emploi passé 55 ans. C'est l'un des défis qui attend notre économie, comme nous l'a expliqué notre invitée, la spécialiste des mutations du monde du travail, Laetitia Vito. Pour elle, la situation des NER est très insuffisamment prise en compte par les pouvoirs publics, alors qu'un tiers d'entre eux vit sous le seuil de pauvreté. Ce sont des personnes usées par le travail, mais pas reconnues comme victimes d'accidents du travail. En fait, c'est la non-reconnaissance de la pénibilité qui pousse essentiellement les femmes à quitter leur emploi. 60% des NER sont des femmes. Par ailleurs, les personnes qui perdent leur emploi après 55 ans ont plus de chances de tomber dans le chômage de longue durée. Paradoxalement, ce sont les hommes qui restent le plus longtemps au chômage, plus que les femmes, car ils ont des carrières moins hachées que celles-ci. Les NER sont en augmentation, hein. Ils sont 1 sur 6 aujourd'hui, âgés de 55 à 64 ans, avant de reculer l'âge de départ à la retraite. Peut-être faudrait-il commencer par permettre à tout le monde de continuer à travailler jusque-là.
Merci, mon cher Pierre Courade. Après des audiences en demi-teinte hier, surtout d'ailleurs pour le quart d'heure de Pierre Courade, on avait besoin d'un remontant, quelqu'un qui nous dise à quel point nous faisions du bon travail. Ne l'ayant pas trouvé, on va à présent écouter François Rollin.
Oui, Mathieu. Alors, avant de survoler la semaine qui s'achève, un petit rappel des fondamentaux. Oui. Nous sommes sur l'antenne de France Inter, un nom qui exprime assez clairement qu'il s'agit d'une radio française émettant depuis la France en langue française. Il est donc logique de s'y exprimer dans la langue de Molière, comme il serait logique de s'exprimer dans la langue de Shakespeare sur une radio qui émettrait depuis l'Angleterre sous l'appellation de England Between. Bon, survolons à présent. Lundi, skincare. Ce mot ne figure pas au dictionnaire français. Il y a à l'intérieur de ce mot des mots français comme ski, dans l'expression « à Noël, j'irai faire du ski à Megève et je serai logé dans l'une des 24 chambres du luxueux chalet de Mathieu Noël », ou comme « car », dans l'expression « à Noël, je me rendrai en car à Monte Carlo et je logerai dans l'une des 13 suites de l'hôtel particulier de Cyril de la Carrière », mais « skincare », qu'on le prononce « skin car ou skincare, inconnu au bataillon et au Larousse. Mardi, ovnipore. Ce mot n'est pas français. En français, nous avons omnivore, comme dans la phrase « le cochon est omnivore, Mathieu Noël aussi ». Nous avons omnisport, comme dans la phrase « Cyril Lacarrière va privatiser la salle omnisport de Neuilly pour son anniversaire », mais ovnipore connaît pas. Mercredi, teensplaining. Pas l'ombre d'un mot français là-dedans, hein, si ce n'est plein, P-L-A-I-N, mot vieilli qui ne s'emploie plus guère que dans l'expression de plein pied. Heureusement, le sujet a été sous-titré « Quand les enfants font la morale à leurs parents ». C'est-à-dire que les penseurs de Zoom Zoom Zen connaissent la traduction en français du mot anglais teensplaining, à savoir, comme on vient de le dire, « quand les enfants font la morale à leurs parents », mais ils préfèrent quand même utiliser le mot anglais. Pitiful. Je vous laisse le soin de traduire. Je dis démocratie gazeuse. Alors oui, les deux mots sont dans le dictionnaire français. Eh ben, c'est juste l'exception qui confirme la règle de haute trahison lexicologique. Aujourd'hui, vendredi, NER, N-E-R, acronyme de ni en emploi ni en retraite. Certains acronymes sont entrés dans notre dictionnaire, comme PAX, radar ou laser, mais NER a jusqu'ici trouvé porte close. Il y a bien NER dans le dictionnaire, à la fin du mot, après dictio, dictionnaire. Mais ça ne s'écrit pas pareil, ça ne compte pas. Venons-en directement à la question qu'il eût fallu traiter pour rester fidèle à l'image de France Inter. La question est la suivante. Si un cinéaste français faisait un biopic du français Aristide Cavaillé-Coll, quel acteur français serait le meilleur choix pour incarner le personnage éponyme? Alors, petite précision pour les nuls, suivez mon regard. Le français Aristide Cavaillé-Coll est le plus grand facteur d'orgue du 19e siècle, donc du 20e dans la foulée. On lui doit 500 instruments à travers le monde, les deux plus grands étant ceux de la cathédrale Notre-Dame de Paris, France, et celui de l'église Saint-Eustache, également à Paris, France. Pour moi, Jean Gabin serait le bon choix. Même mort. Oui, même mort. Le talent n'a pas d'âge.
Vous venez de le prouver. Merci, François Rollin. J'ai pas tordu la perche. On vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom, François. Merci, Laetitia Vito, d'être venue nous parler de ces NER, ces personnes ni en emploi ni en retraite. Je rappelle le titre de votre livre, L'atout âge, c'est disponible aux éditions Erol. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi. Zoom Zoom Zen.